Tov, nous sommes dans la suite de notre cours concernant Eretz Israël. Et la différence entre le secret de cette terre et la façon de la voir au niveau dévoilé. Nous sommes dans le passage qui commence Vekaasher mit orerim belahat. Lorsque l'homme se réveille avec ardeur, belahat kodesh, une ardeur de l'étude de la Torah, la da'at ou la sig et achelek ane'elam, afin de connaître, d'arriver à accéder à la partie cachée, shemekupal bagvil, cette partie qui est cachée en réalité dans le blanc d'entre les lettres. Vegomrim alav et ahalel, c'est une expression, c'est-à-dire que nous sommes dans l'approche intérieure de l'étude, à tel point que nous pouvons dire le halel, c'est-à-dire remercier, louer Akadosh Baruch Hu d'avoir accepté de nous faire entrer dans ce niveau-là de l'étude. C'est comme un remerciement à Akadosh Baruch Hu de nous donner accès à cette partie cachée de la Torah. Are az gam ha giluyim hamitgalim beotiot. Si c'est le cas, eh bien même les dévoilements qui passent par les lettres elles-mêmes, mitna'arim et afaram, elles sont nettoyées de leur poussière. Autrement dit, les lettres de l'étude, avant de pénétrer le secret de l'étude, les lettres sont pleines de poussière. Tu ne peux pas comprendre réellement le sens des choses, si ce n'est que lorsque tu secoues ton étude, en donnant à ton étude une profondeur. Alors là aussi c'est une expression, tout est imagé chez le Rav. Il dit que l'accès profond va dépoussiérer les lettres que tu étudiais jusqu'à maintenant. Avant d'étudier le sens profond, les lettres, l'étude classique du premier degré, c'est comme si tu étais dans un monde de poussière où tu ne vois pas encore clairement les choses. Et dès que tu as accès au sens profond, eh bien tu commences à dépoussiérer toutes ces lettres et va commencer à se dévoiler à tes yeux un étage beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur et donc par là même beaucoup plus global. De la même manière que nous disons dans le Lecha Dodi, Itna'ari me'afar kumi. Traduction, secoue-toi et lève-toi de la poussière. C'est la même chose. L'étude de la Torah est un petit peu poussiéreuse lorsqu'on n'a pas accès au sens profond. Et dès qu'on a accès au sens profond, bien, l'étude de la Torah devient autre chose. Ce n'est plus seulement des lettres et des mots et des discussions rabbiniques. Tu commences à comprendre le sens pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé ce monde et a placé ses sages afin de discuter sur des points qui sont bien précis quant au dévoilement de l'infini dans le monde fini. Tout te paraît différent. Tu montes à un autre niveau. C'est un autre étage qui se dévoile devant toi. Mais pour ceci, il faut que tu te secoues. Tant qu'un homme ne se secoue pas, bien sa Torah, c'est encore, et le Rav est en train de le dire, des lettres poussiéreuses. Et il faut que tu saches enlever la poussière de tes lettres. En faisant quoi? En comprenant d'abord, en prenant conscience qu'il y a un secret, un sens profond à ton étude, et essaye, selon tes moyens, d'y accéder. Une fois que ces lettres, dit le Rav, sont dépoussiérées, vekamim venitsavim, ces lettres, ces mots que tu as peut-être rencontrés déjà durant ta vie, durant les années de ton étude, tu es déjà passé devant ces textes-là. Seulement, la poussière qui les entourait ne te permettait pas de voir réellement leur sens. Un exemple. Parfois, vous lisez un verset de Tehilim que vous avez déjà lu 20 000 fois. Seulement maintenant, avec l'explication qu'on vient de vous donner, vous voyez ce verset avec un nouvel œil, avec un nouveau regard. Quelque chose a changé. Tu ne liras plus jamais ce verset avec la compréhension et la manière de faire que tu avais jusqu'à maintenant. Et tu peux répéter des mots toute ta vie sans jamais réellement comprendre ce que tu es en train de dire. Dès qu'on étudie quelque chose, ça te fait monter à la surface le secret de ce mot. Et là, tu le vois avec un autre œil. Vekamim venitzavim liot menatzrim behod. Et donc, ça devient une éternité. Ça prend un ordre d'éternité et de victoire. Netzach en hébreu. En hébreu, Netzach, c'est exactement les lettres de Chitson. Mais c'est en même temps les lettres de Chitsoni. Chitsoni veut dire extérieur, superficiel. Donc c'est ou superficiel, extérieur, Chitson, ou bien tu inverses les mots, ça devient Netzach, victoire, donc profondeur, donc éternité. Donc il faut avoir une victoire sur l'extériorité. Et c'est d'ailleurs tout le sens de Hanouka que nous allons fêter à la fin du mois, Be'ezrat Hashem. Hanouka, c'est quoi? Mais c'est la victoire de l'intériorité face à l'extériorité. L'extériorité qui est la graisse, qui est le côté cérébral, qui est le côté rationnel, alors que l'intériorité, c'est Israël, c'est la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu apporte au monde. Mais tant que tu laisses le grec qui est en toi gagner, mais tu laisses en réalité l'extériorité qui est en toi, tu la laisses gagner. Et dès que tu comprends le sens profond, mais tu donnes le pouvoir à la face cachée qui est en toi et à la face cachée qui se trouve dans l'univers tout entier. À l'étude de la face cachée qui va gérer en réalité même la face dévoilée. Dans le mot chitsoniyut, qui veut dire extériorité, superficialité, il y a le mot yevani, qui veut dire le grec. D'accord ? Donc le Yevani se trouve dans l'extériorité. Il faut tout simplement le convertir. Il ne faut pas le tuer, le grec, parce que le côté rationnel est nécessaire chez l'homme. Mais il faut tout simplement le mettre au service de la Neshama divine qui est en nous. C'est bien que nous ayons un côté cérébral, cartésien, intellectuel, mais c'est seulement comme serviteur de l'arbre de la vie, et non pas comme premier degré. Autrement dit, nous vivons d'abord de l'être infini, la Torah, et à partir de cela, nous devons, intelligemment parlant, développer cette étude par notre cerveau. Donc ça devient Netzach, Behod Ktushatam, Vetif Artam. Alors là, le Rav joue avec des sphères célestes. Il parle de Netzach, de Hod, de Tiferet. Vous voyez, ce sont des noms de Sphirot. Et lui, il les case à l'intérieur de son texte, à la manière du Rav Kook aussi, c'est-à-dire sous forme allégorique, sous forme poétique. Il introduit, il insère des termes venus du monde de la Kabbalah, qui nous disent tout simplement, et là je vous traduis directement, qu'il s'agit du degré des jambes, des pieds. Autrement dit, tant que les choses ne sont pas au niveau des jambes, eh bien elles n'existent pas encore réellement. Je vais le traduire avec d'autres mots. Lorsque nous avons une idée, un idéal, tant que cet idéal n'est pas arrivé à l'étage des jambes, à l'étage de la manifestation, du dévoilement, eh bien, le travail n'est pas terminé. Le travail, c'est d'arriver toujours aux sphères inférieures, et le nom des sphères inférieures, peu importe maintenant, c'est pas la peine de rentrer dans tous les détails, ça s'appelle Netzach Hod Yesod, qu'il a appelé ici Kedusha et Tiferet. Donc le Rav est en train d'introduire donc des notions de Kabbalah pour nous dire que tes idées, fais-les descendre pour les vivre. Et ça, c'est ce qui se passe avec l'étude lorsque tu prends contact avec le sens profond de l'étude, eh bien tu touches l'essence des mots, l'essence des lettres, et c'est comme si tu les mettais en place. Maintenant, elles sont debout. Elles tiennent sur leurs jambes. Avant, c'était des lettres, des mots que tu lisais, mais tu ne savais pas en réalité ce que tu es en train de faire. Là, avec le sens profond, tu as donné en réalité à chaque degré une assise, une force, une stabilité, une stature. Et là, ce sont des lettres qui peuvent te révéler le secret. Donc, kamim venitzavim liot menatzrim beot gdushatam vetifartam. Jusqu'à quel point? Umalea haaretz de'aet Hashem. Jusqu'à ce que la terre soit remplie de la connaissance divine. Donc, du sens divin qui vient et qui entre dans notre monde. Nous sommes là pour faire descendre Dieu, entre guillemets, le faire descendre, donc le dévoiler, ça sous-entend descendre égale dévoiler, faire dévoiler, faire descendre Dieu dans ce monde. C'est pour ça que nous sommes là. C'est-à-dire le peuple d'Israël est un canal par lequel Dieu passe pour arriver et accéder au monde. Le jour où le monde sera rempli de cette connaissance divine, ça veut dire Dieu va remplir le monde, eh bien, ce sont les jours messianiques, c'est la fin des temps, c'est-à-dire que nous allons voir les choses avec un autre œil, à un autre degré. Ken.
Pourquoi tout ce schéma?
Pourquoi tout ce schéma?
Tout ce chemin,
tout ce cheminement. Tout simplement pour laisser à l'homme la capacité à devenir associé à cette descente divine. Dieu aurait pu, effectivement, tu as raison, revenir dans ce monde tout seul, il n'a pas besoin de nous pour cela. De la même manière qu'il a créé ce monde et qu'il s'est entre guillemets retiré ou qu'il a sorti le monde de lui pour le créer, eh bien il aurait pu revenir tout seul dans ce monde sans l'intermédiaire de personne. Il a choisi l'intermédiaire Israël pour revenir dans ce monde. Becha bachar Hashem mikol ha'amim liyot lo le'am segula. C'est en toi que Dieu a vu la capacité à faire revenir Dieu dans ce monde. Donc le retour de Dieu dans ce monde se fait par Israël. Pour laisser à l'homme la place de devenir l'associé de sa création, donc pour avoir du plaisir de participer à la bonification de tout cet univers. Ce monde, si je te le donne déjà fait, mais tu es dans une position que les philosophes appellent parménide, donc une forme parménidienne, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas. Tout est déjà là. Ce qui est, est. L'homme qui représente cela, c'est Esav. Esav s'appelle, dans le langage de nos sages, Asoui. Il est déjà fait. Il n'y a rien à faire avec lui. Donc il n'a pas d'effort à fournir. Il vit pleinement sa vie directement. Mais il ne prend pas les choses au premier degré, le plus haut. Il prend les choses telles qu'elles sont, au niveau naturel, au niveau basique. Il y a une autre forme que les philosophes appellent héraclidéenne. Donc Héraclide, c'est l'autre forme, c'est celle qui sans arrêt évolue. Et l'évolution de l'être, c'est Yaakov. Yaakov qui se traduit par le terme de « il est suivi, il continue, il a une suite dans les idées ». Va yakvenize pa'amaim, en hébreu ikvi. Ikvi veut dire. Non. Qu'est-ce que c'est ikvi en hébreu? Comment ça se dit en hébreu? Quelqu'un qui a une continuité. Comment ça se dit en français? Assidu. Quelqu'un qui continue, qui ne s'arrête pas. Il est conforme à ce qu'il doit faire. Il est tout le temps en perpétuelle évolution. C'est pour ça qu'Yaakov ne garde pas son nom Yaakov. Il va devenir Israël. Donc vous voyez que ce n'est pas parménidien, c'est héraclitéen. Ça veut dire que c'est un être en évolution permanente. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a choisi Israël pour faire en sorte que l'infini se retrouve dans le fini. Et ça ne s'arrête jamais, puisque l'infini, par définition, il est infini. Eh bien, c'est sans arrêt, remplir, remplir et remplir encore le monde fini par les valeurs de l'infini. Et nous sommes Israël, le trait d'union entre ces deux mondes, comme le rêve que vous allez voir dans la paracha de la semaine, de Yaakov avec la fameuse échelle, dont la tête va vers le ciel et les pieds de l'échelle vont vers la terre. Ça veut dire qu'il y a une idée bien précise de relier les cieux à la matière, l'esprit à la matière, le jour et la nuit, l'homme et la femme, Dieu et les hommes, la neshama et le corps, le soleil et la lune. Oui, je vous ai donné des exemples, mais en réalité, c'est ça qu'Israël est venu faire dans ce monde. Donc le but de ce processus, c'est de permettre à l'homme d'être associé à toute cette création.
Alors, quel? Il avait dit, donc, notre but à nous, c'est de faire descendre Hachem dans le monde.
D'accord.
Ce n'est pas plus Hachem qui nous fait monter. Alors, vous avez toujours dit, c'est de haut vers le bas.
D'accord. D'accord, c'est de haut vers le bas. Donc c'est lui qui descend.
C'est pas nous qui faisons, quoi. C'est toujours lui.
Non, j'ai dit que c'est pas nous qui montons. Si on monte, ça veut dire qu'on néglige le monde dans lequel nous sommes.
C'est nous qui faisons en sorte de le faire.
Exactement, c'est nous qui faisons en sorte de le faire descendre. C'est-à-dire, je m'ouvre, je me fais canal pour qu'il passe par moi dans le même sens, du haut vers le bas. Ce que, oui, j'ai dit, c'est qu'on ne monte nulle part. Parce que monter quelque part, ça veut dire que ça sous-entend que ce que j'ai ici ou ce qu'il y a ici n'est pas bon. Et ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de quitter la terre. Dieu m'a mis sur la terre, ce n'est pas pour la quitter. Donc je dois faire en sorte de remplir cette terre dans laquelle je suis par des valeurs célestes. Mais moi, si je monte vers lui, c'est comme si j'ai abandonné ce monde. Donc si j'ai abandonné ce monde, ça veut dire tout simplement que je n'y crois pas. Et que je ne crois pas que Dieu lui-même est capable d'arranger ce monde. Donc la seule chose à faire, c'est de le fuir. Et ça, ce n'est pas du judaïsme.
Mais en fait, c'est vrai qu'ils pensent à eux, ils montent vers Hachem.
C'est un problème. Parce qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de jambes. Et c'est pour ça qu'il y a marqué qu'en Eretz Israël, on ressemble à quelqu'un qui a le nom de Elohim qui apparaît. Qu'est-ce que c'est le nom de Elohim? C'est le Dieu transcendant qui descend dans le monde, qui est immanent, qui pénètre le monde et qui s'habille dans notre vie, dans notre nature. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir de Adonai ou Ha Elohim. Donc le tétragramme devient Elohim. Autrement dit, je fais en sorte de transformer l'infini en fini. C'est pas que l'infini va devenir fini, mais c'est une manière de parler. Je vais faire en sorte que les valeurs de voix d'Akadosh Baruch Hu lui-même soient les mêmes valeurs avec lesquelles moi je vois le monde. Je dois, en d'autres termes, voir le monde avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Je dois commencer à voir tout ce que je vois, avoir une approche divine de chaque chose. Même quand je bois un verre d'eau. Tant que mon approche est une approche animale, basique, bien, ça veut dire que je n'ai pas encore fait descendre des valeurs qui me dépassent. Donc, faire descendre des valeurs divines dans ce monde, c'est transformer ma manière de voir la vie. Et ma manière d'agir, ma manière de penser, ma manière de parler. Donc je deviens de plus en plus moi-même divin. Sur terre. Parce que le divin m'habille. Je deviens un vêtement pour le divin. Le divin utilise mon être pour traverser cet être-là et se dévoiler dans le monde encore plus. Donc là où je passe, je fais en sorte qu'il y ait un écoulement du divin, un dévoilement du divin aux gens que je vais rencontrer. Chacun de nous doit être ce canal-là, et d'une manière collective, toute l'assemblée d'Israël, elle a cette force-là. Les Hashrot Ruach Nevoa, tout ceci va vers quelque chose, bien entendu, de très réel et de très concret, la prophétie. Qu'est-ce que cela veut dire ? La prophétie, c'est de vivre réellement selon la vérité absolue divine, et non pas subjective, comme chacun de nous vit dans une subjectivité continuelle. Il ne sait pas si ce qu'il pense, c'est parce qu'il a eu l'habitude, parce qu'il est né dans tel et tel contexte, qu'il pense pareil. Est-ce qu'il sait où est la vérité, où est le mensonge? D'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce que tu sais où est le bien, où est le mal? Eh bien, il y a une force intuitive qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, ça s'appelle la prophétie. Cette prophétie, lorsqu'elle abonde, lorsqu'elle descend d'une manière beaucoup plus forte, eh bien j'ai conscience aussi en même temps que c'est en train de passer par moi. Et les valeurs que l'éternité me donne, que l'éternel me donne, ce sont les valeurs que j'acquiers. Et je commence à vivre selon ces valeurs-là dans ma vie. Et donc la morale, je ne vais plus la calculer selon mon cerveau à moi. Je vais voir ce qu'Akadosh Baruch Hu me dit concernant la morale. Quelle est la véritable morale avec laquelle le monde doit vivre? Pas ce que moi j'ai déduit de mon intellect. Pour cela, il faut un renouveau de la prophétie. La prophétie m'apporte des choses de l'ordre de l'infini, dans le monde fini dans lequel je suis. S'il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de judaïsme. S'il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de Torah. Toute la Torah est une prophétie. S'il n'y a pas de prophétie, je jette ma kippa. Il n'y a rien à faire. Parce que tout ça, c'est des inventions des hommes, ça ne m'intéresse pas. Ça, si ça ne vient pas de l'infini, béni soit-il, ça ne m'intéresse pas de créer encore une religion dans le monde et faire des actes. Comprenez bien que si la Torah n'a pas été donnée du ciel et que je ne crois pas en ça, je n'ai pas la conviction de cela, j'ai un grave problème. Parce que ça voudrait dire que la Torah a été inventée par des gens. Intelligents peut-être, mais en quoi ça me concerne? Les hommes sont toujours subjectifs. Donc ce qu'il a pensé lui, c'est pas ce que je pense moi. La seule possibilité pour que je suive la Torah, c'est qu'elle vienne de l'infini. Qu'elle vienne d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et ça, c'est le don de la Torah au Mont Sinaï. Aucune nation du monde n'a eu cela, sauf Israël. C'est Dieu qui est venu vers nous. On n'est pas allé le chercher. Il est descendu. Vayered Hashem al Har Sinaï. Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï. C'est l'infini qui s'adresse au fini. C'est l'infini qui s'adresse aux hommes. À partir de ce moment-là, je peux prendre la Torah et me dire que si ça vient de l'infini qui, lui, a créé le monde, ça veut dire qu'il connaît en réalité la structure intérieure de ce monde. Et donc, appliquer ce qu'il me dit, c'est tout simplement mieux vivre. Et là, je change complètement ma manière de vivre. C'est pas compliqué ce que je dis, Nahon. Si oui, levez la main. Ken. Il a fait. Ça, c'est une très très bonne question. Pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre? Il y a il y a des réponses très profondes à cela. Non. Ils n'ont pas refusé parce qu'il n'y a pas eu. Au grand jamais, il n'y a jamais eu un rendez-vous de Dieu avec toutes les peuplades. Où ça? Donne-moi un texte. Ou donne-moi le texte. Où c'est marqué? Dans la parasha. La parasha, Dieu, il a rassemblé toutes les nations, il leur a dit, vous voulez la Torah? Alors, qu'est-ce qu'il a? Pardon? Chacun. Donne-le-moi, le texte, hein, ne me sort pas un midrash. Le texte, d'accord? Sinon, j'ai pas la même référence de Torah.
Vous savez pas de quoi, quand Hachem il a proposé la Torah en Israël.
Quel
Israël, ils savaient pas, ils ont dit Naasé, on va faire et après on va comprendre. Ils savaient pas. Ils ont pas posé de questions. Parce qu'en fait, ce qui est marqué dans le Midrash, c'est que Hachem, quand il a proposé la Torah à chaque peuple, au peuple d'Ismaël, il a dit voilà, vous aurez pas le droit de.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple a dit?
Il a mis une barrière, une interdiction. Que chaque peuple avait l'habitude de franchir.
Autrement dit, chaque nation ne pouvait pas naturellement recevoir la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y avait en elle une structure intérieure qui ne permettait pas. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a jamais eu de réunion. Ken, il est allé chercher un livre, il va m'apporter un midrash. Ça n'existe pas dans le texte. D'accord? Ken.
Donc il n'y a pas eu de choix.
Exactement. Le choix, c'est de créer la nation d'Israël avec cette qualité-là. Tout à fait. Il n'y a jamais eu de choix. Pour ça que je dis, il n'y a jamais eu dans l'histoire d'Israël un rendez-vous de Akadosh Baruch Hu, ni avec toutes les nations ensemble, ni avec chacune séparément.
Non, c'est quoi ce midrash avec la montagne à l'envers?
C'est justement. Ça veut dire que le midrash qui nous dit que Akadosh Baruch Hu dans la Gemara de Shabbat 88 a placé la montagne sur Israël, ça veut dire vous ne pouvez pas refuser parce que c'est votre nature. C'est-à-dire que c'est votre nature de faire révéler cette Torah. Donc vous n'avez même pas le choix, je ne vous demande même pas le choix d'avoir la Sgoula en vous. Où est-ce que nous allons avoir le choix de dévoiler ou pas? D'accord? Mais la structure intérieure, on n'a pas le choix, on l'a. On est né avec une carte magnétique à l'intérieur de nous-mêmes qui nous donne la possibilité de faire cela. Ton choix n'intervient que si tu veux vivre selon ce degré de cette carte magnétique ou pas. Ça, c'est différent. Ça, c'est bien après. Mais au Mont Sinaï, qu'est-ce qu'on a reçu en réalité? la carte magnétique. C'est-à-dire, je place en vous la possibilité d'être le révélateur de Dieu dans le monde. Maintenant, à vous, durant l'histoire, de le faire ou de l'étouffer. Ok ?
Alors, je peux ne pas vouloir de cette carte magnétique et...
Non, tu peux ne pas vouloir la dévoiler. Mais de cette carte, tu ne peux pas parce qu'elle est déjà en toi. Tu ne peux pas faire autrement. Tu es né avec ça. Et dès que tu es né...
Si
y a
ça.
Fait. Tu alors, peux vivre autrement.
Alors, je préfère me convertir ou que, plutôt que...
Tu ne peux pas te convertir. La conversion est impossible parce que tu ne peux pas convertir cette carte. Tu peux juste lui dire, t'es bien gentil, ma petite carte sympathique, reste à l'intérieur, dors, moi je ne veux pas vivre selon toi.
C'est pas mieux d'être quelqu'un d'autre, enfin d'être quelqu'un d'autre, même si c'est en soi, plutôt que d'être juif et d'être complètement dans un...
Mais tu ne peux pas, c'est ça le problème. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Ça ne dépend pas de toi.
D'un côté, Hachem nous a imposé.
Il nous a imposé.
Il nous a pas posé.
Tout à fait. Il nous a imposé notre nature. Notre nature est imposée. Seulement vivre selon ta nature ou ne pas vivre selon ta nature, ça c'est ton choix.
Okay. La carte magnétique, elle est venue bien avant la Torah.
Non, elle était créée bien avant, mais elle a pénétré la nation qui était dévoilée réellement de facto au don de la Torah. Ça s'est concrétisé. Elle était créée avant la création du monde même. C'est-à-dire le choix dont il est parti chercher le livre, qui n'existe pas, il a été fait avant la création du monde. C'est-à-dire Dieu nous a déjà choisi de nous créer de telle manière pour qu'on puisse un jour recevoir la Torah au Mont Sinaï. Donc le monde entier, qu'est-ce qu'il fait? Il attend l'avènement messianique. Le jour du don de la Torah au Mont Sinaï, tout le monde tremble, la terre tremble. Pourquoi elle tremble? Pour savoir si Akadosh Baruch Hu va introduire cette carte magnétique en nous ou pas. Donc Israël, malgré lui, il aura mis la montagne sur la tête, ça veut dire qu'on n'avait pas le choix. Mais vous avez le choix de vivre ou ne pas vivre selon ça. C'est pour ça que chacun de nous est libre aujourd'hui. T'as envie de te lever pour la tefila le matin, t'as pas envie de te lever. T'as envie de manger kasher, t'as pas envie de manger kasher. T'as envie de vivre en Israël, tu peux vivre en France ou à Singapour. Personne ne va t'obliger de quoi que ce soit. Mais ta nature, Israël, c'est elle qui va te juger. C'est-à-dire que tu seras jugé selon la nature, selon la carte que tu as à l'intérieur de toi. Et on va juger en réalité ton décalage par rapport à cette carte. Moi, je t'ai placé une carte de cette couleur-là, et toi, tu as vécu de cette manière-là. Quel est le décalage entre ces deux degrés? C'est tout. C'est ça le jugement en réalité. Donc, qui me juge? Mon état, moi-même.
Une personne, elle peut dépasser son potentiel de base?
Non.
Est-ce que se rapprocher?
C'est son potentiel. Elle peut se rapprocher tout le temps. Son potentiel est infini.
Mais la carte que vous avez, c'est pas le potentiel.
C'est le potentiel.
Le fait que
nous... Ah, il a le texte.
Ouais, magnifique, montre-moi le texte. Alors, ne me dis pas Midrash, attention. Hein.
Ah,
ne me dis pas que c'est...
D'accord,
donne-moi le texte de la Torah. Je veux savoir comment Akadosh Baruch Hu nous a dit. Moi, lis-le-moi. Dans quel paracha c'est? Adonai Misinaï Ba Bezarach Misair Lamo. Alors
Misair Lamo. Seir, c'est il a présenté aux enfants des Ahus.
Où tu as vu ça,
hein?
Où tu vois
le
ça
des saves.
Mais où tu vois
et
que c'est ça?
Paran, pas les enfants d'Ishmaël.
Non, ma pito. Ma pito.
Rachid.
Non. C'est pas ça. Ça, c'est d'abord, c'est une Shira. Shira Tayam, Shira Ta'azinu.
Rachimon.
Non. Shira Ta'azinu, elle nous explique ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch dans l'histoire?
Il s'est présenté au mont Paran pour voir les enfants d'Ishmaël, il s'est présenté au mont Seir pour voir rayonner vers les enfants de...
Donc c'est pas un texte de la Torah, c'est un midrash que tu es en train de dire qu'à Kadosh Baruch un jour, tu dois comprendre entre les mots ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que Dieu veut nous montrer que la nature de la Torah ne correspond pas à ces nations-là. C'est ça que ça veut dire.
C'est-à-dire qu'il a proposé.
Bevadaï, mais qu'est-ce que ça veut dire leur proposer? Mais pas au niveau du texte de la Torah historique. C'est ça que je suis en train de te dire.
Ah, oui, ça.
D'accord? C'est un midrash. Ça veut dire qu'il a explosé à la neshama de chaque nation avant même qu'elle ne soit créée.
Ouais.
C'est ça que ça veut dire. Ouais. D'accord? Et même Israël. Il nous a proposé ce degré-là. Déjà, il a créé avant la création du monde. Ça relate en réalité ce qui s'est passé dans le monde intérieur. C'est-à-dire, donc, tu as apporté un midrash, mais pas le texte du récit de la Torah. Dans le récit de la Torah, dans aucune paracha, c'est marqué qu'il y a eu un regroupement. C'est un chant de Hazinu qui explique au niveau de ce qui s'est passé derrière les fagots, okay, derrière les degrés qui sont dévoilés dans la Torah.
Ben. Si je résume bien votre pensée, donc vous confirmez que le peuple juif c'est un peuple élu, c'est un peuple supérieur, c'est un peuple...
Non, j'ai pas dit supérieur.
Non. Oui, non, mais
élu pour son travail.
Oui, mais qui on va dire, tirer les ficelles, qui est censé tirer les ficelles.
Non, non, pas du tout, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le peuple d'Israël a un rôle bien précis. Celui...
Non, c'est un rôle absolu quand même, on a l'impression que c'est un rôle qui
ne sont pas
capables de faire et qui
pas du tout, pas du tout. On n'a pas le rôle de créer des voitures. On n'a pas le rôle de fabriquer des appareils électroniques. On n'a pas le rôle de sauter en hauteur de 3 mètres de haut. On n'a pas le rôle de voler. On n'a pas le rôle de créer des avions.
On a le rôle de représenter le divin sur terre.
On a le rôle de représenter le divin sur terre à notre manière. Ça veut dire que chaque nation représente le divin à sa manière.
Non, mais la vraie manière, on sait que la vraie manière.
Il n'y a pas de vraie manière. Toutes les manières sont vraies. Donc chaque nation dit « Tu m'as choisi pour ce que je suis ». C'est-à-dire un japonais peut dire tous les matins Elohai Neshama She Natatabi pour faire telle et telle chose. Lui aussi il a une Neshama et il est spécialiste pour faire telle et telle chose dans ce monde. Et il apporte lui aussi son bénéfice au monde.
Mais tout ce qui est relatif à la création de l'homme, au but de l'homme, etc.
La Neshama. Nous Israël, on apporte la Neshama au monde. Et les nations du monde apportent le corps du monde. Mais c'est important les deux. Le corps, c'est pas supérieur.
Le corps ne va pas sans l'aneshama.
Et l'aneshama ne va pas sans le corps. Donc, j'ai jamais dit supérieur. Attention, c'est un rôle différent. De la même manière que les oiseaux apportent leur participation à la création du monde. Je ne peux pas dire à un oiseau, toi tu ne vaux rien, moi je suis mieux que toi. Ça ne veut rien dire.
Moi, je distingue quand même.
Parfait. Distinguer. Bien dit. Distinguer, ça veut dire faire la différenciation. Mais pas repousser l'autre et lui dire qu'il n'est pas légitime ou qu'il ne doit pas être là. Elle est généralement au niveau de la nature,
ah oui, mais
c'est-à-dire du monde d'ici, pas du monde de l'au-delà. C'est pour ça que nous avons du mal à être ici, parce que nous sommes plus de l'au-delà que d'ici. Kol Israël eshlaim chelek la'olam haba. Ça veut dire dans le olam hazé, on a un problème. Ils nous acceptent mal. Pourquoi? Parce qu'on est comme un élément étranger qui vient de l'au-delà venir rentrer dans le monde de la matière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un rejet. Donc à chaque fois, on nous rejette. Parce qu'on ne vient pas réellement de ce monde. C'est pour ça que les nations du monde s'appellent les nations du monde, Umot Haolam, et Israël ne s'appelle pas Uma Haolam. Elle vient de l'au-delà, elle vient d'un autre degré.
Oui, mais c'est les gens le reprochent justement de. D'accord. L'âme.
Mais l'âme n'est.
Chacun.
L'âme n'est pas la même.
L'âme. Que les autres, non, autres c'est pas la même Neshama. D'ailleurs, personne n'a la même Neshama.
Oui,
même entre nous, nous n'avons pas la même Neshama.
Oui, mais pas le Neshama.
D'accord.
Au niveau global.
Au niveau collectif, nous avons un niveau de Neshama.
De chaque nation veut être l'âme du monde aussi.
Chaque nation, elle a sa fonction dans le monde, tu as raison.
On est devenu être l'âme.
Jamais. Regarde ton corps, jamais ton nez n'a voulu devenir autre chose qu'un nez. Il accepte son rôle, il joue son rôle dans l'édifice global que tu es, que tu présentes. C'est comme ça qu'il faut voir le monde. Si une nation veut devenir quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'elle a un problème. Moi, je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je veux ni être mon rave, ni être quelqu'un d'autre. Je veux être Yoel. J'ai pas besoin d'être l'imitation de mon rave, avec tout le respect que je lui dois. Si je suis comme lui, alors il y a un des deux qui est inutile dans ce monde. Moi, je viens compléter ce que mon rave ne peut pas faire. Et je viens compléter ce que lui... peut faire, lui vient compléter ce que moi je peux pas. C'est tout. On est complémentaires. Avec les nations du monde, nous sommes complémentaires. Différents, bien entendu, complémentaires, mais non pas supérieurs ou inférieurs. Arrêtez avec ça. Sinon, l'homme est supérieur à la femme, le jour est supérieur à la nuit. Ça ne veut rien dire tout ça. On ne dit jamais ce mot-là dans la Torah. On dit... Qu'est-ce qu'on dit? Havdallah. Nous sommes différents. La Havdallah que tu fais Motzei Shabbat, c'est pour différencier, mais pas pour dire je suis plus grand que l'autre. Donc chacun doit respecter son rôle et on est complémentaires. Et j'ai besoin des Chinois et des Japonais et des Turcs.
À part l'aspect divin, il y a l'Israël. On a aussi un aspect matériel.
Nahon. On a du mal avec cet aspect.
À la porte au monde, beaucoup de choses.
Nahon. Pourquoi?
En l'espace de 60 ans, on a réussi à faire beaucoup de choses que des pays en,
tout à fait.
En 100 ans ne
parlent. Dis-moi pourquoi, si tu as lu la paracha de cette semaine.
Je n'ai pas terminé de la lire.
Mais... c'est pas grave, c'était au début. C'est parce que tout simplement Yaakov a pris la bénédiction de son père Yitzhak même au niveau du monde matériel. Quand il s'est déguisé et qu'il a mis les bras de Esav poilu et que son père aveugle entre guillemets ferme les yeux et dit je m'en fiche de celui qui est devant moi, l'essentiel c'est qu'il est en train de réaliser ce que je veux, c'est-à-dire un homme qui est capable d'être avec la voix de Yaakov, à Kol Yaakov, mais en même temps, il a les mains de Esav. Ça veut dire que c'est un homme qui peut s'occuper de choses très 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 élevées, mais en même temps, il sait aussi, comme tu es en train de dire, faire des choses dans ce monde matériel. Cet homme-là, je le bénis. Ça veut dire que nous avons aussi gagné le Inyan de ce monde-là. Ça, ça peut énerver.
À quoi c'est ça?
À quoi il sert? Parce qu'on a, on a certains degrés qu'on peut faire, mais pas tout. D'accord? Il a les yadaïm yede Esav, mais c'est toujours Esav. D'accord? C'est-à-dire on peut faire des choses que Esav fait. On a reçu aussi cette capacité. Pas tout. Esav, il est là pour renforcer le monde, pour construire l'édifice du monde, pour fabriquer, pour chercher. Chochma bagoïm ta'amin. Torah bagoïm al ta'amin. Ça veut dire les goïms n'ont pas de Torah, mais ils ont une chochma. Et ça, tu peux être convaincu. C'est très important. Tout leur apport au monde, dans toutes les civilisations, ils ont apporté beaucoup de choses dans le monde. Les nations du monde, elles sont nécessaires même pour Israël. Nous utilisons ce que les nations du monde...
C'est quoi leur but ?
Leur but, c'est de la même chose que l'homme, servir d'ustensile pour que la lumière divine descende. Israël va être le vecteur, mais la Torah doit arriver chez qui ? Chez les goyim. Veyad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Il faut que l'Égypte, autrement dit que les nations du monde, reconnaissent Akadosh Baruch Hu.
Pour
que ce monde soit rempli d'éternité et que le monde tout entier, et les goyim et les juifs,
montent.
C'est le Mashiach qui vient, qui structure, restructure le monde et le monde monte à un autre niveau.
Donc il y a un manque, si on ne peut pas faire ça sans Mashiach.
Toujours un manque.
Si on ne peut pas réussir à faire ça sans Mashiach, ça veut dire qu'on n'a pas réussi...
Tout à fait, tu as raison. C'est pour ça qu'on n'est pas encore dans la Geoula Shlema. Le Mashiach, c'est la Geoula Shlema. Ça veut dire qu'il va dévoiler certaines choses qu'on n'est pas encore capable de faire sans lui. Et on va compléter, mais à chaque fois on complète. C'est jamais, on n'est jamais complet. On est toujours en voie de complétude.
Donc, on n'est pas en période.
L'envoi du Mashiach, ça ne dépend pas du fait que tous les Juifs fassent leur envoi, mais ça dépend du fait que les Juifs réussissent à transmettre.
Ça passe par la Torah et les mitzvot, mais avec la prise de conscience, pourquoi on fait la Torah et les mitzvot? Pas pour nous. On fait la Torah et les mitzvot pour que Dieu descende sur terre pour les nations du monde.
Par exemple, les initiatives comme les Shabbat mondiaux, qui avaient des gens qui essayaient d'organiser ça, genre Shabbat de tous les du monde pour Shabbat, enfin c'est
pas utile. Non, c'est des essais pour essayer de ramener Israël vers sa structure intérieure de prise de conscience de qui il est. Ça fait partie aussi du travail. Mais la véritable structure, c'est de comprendre pourquoi ce monde a été créé et que Israël doit apporter la lumière au monde et non pas vouloir que les nations du monde se détruisent. On n'a aucune simcha de voir que les nations du monde sont en train de partir en cacahuète. C'est mauvais d'avoir ça. Il faut au contraire, il faut aimer les nations du monde. Il faut savoir que nous sommes là pour apporter cette lumière divine. Avec beaucoup de respect et pas avec de la gaava, pas avec de l'orgueil. C'est un problème. C'est un problème. Les gens qui pensent que la Torah c'est pour nous et qu'on va recevoir les choses pour nous et que le Mashiach il est pour nous et que le Beth Amikdash il est pour nous et qu'on va s'enfermer dans notre petite sauce privée, c'est un problème. Les Chachamim nous disent qu'il beiti bet tefila ikar et le kol ha'amim, même le Beth Amikdash, il va y avoir des dizaines de milliers de bus qui vont arriver chaque jour. C'est pour tout le monde. Il va y avoir une panique totale ici.
En plus, c'est très serré, très étroit.
Je ne sais pas combien on va faire, mais c'est fait pour ça. Non, je rigole pas en plus. Beth Amikdash, c'est pour les nations du monde. Et nous sommes les Kohanim. On va se servir en réalité les nations du monde. On va servir la lumière de Dieu aux nations du monde. Au lieu d'aller au restaurant et de recevoir des pâtes, on va leur servir du Kodesh, des notions divines.
Okay. Alors si les nations du monde sont en train de s'effondrer ou ça va mal, c'est de notre faute.
Tout à fait. Ça veut dire qu'Israël ne fait pas son rôle, ne joue pas son rôle, donc les nations du monde, intuitivement, elles vont vers... Okay. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une extinction de lumière? Tu cours vers le compteur. Enfin, directement. Mais Israël, c'est le compteur, c'est lui qui doit en fait faire passer la lumière de Chevrat Hashmal, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, vers la maison, c'est-à-dire les nations du monde. Chaque fois qu'il y a une coupure de courant, bien tu vas dans la boîte, c'est-à-dire Israël. Sur ta boîte, tu peux marquer Israël. Il y a un problème avec un des fusibles ou un truc, on a pété les plombs, je sais pas quoi.
Donc c'est juste parce qu'on nous dit, ce qu'on nous reproche d'être
responsable. Tout à fait. Si on est responsable, eh bien jouez votre rôle. C'est ce que les nations du monde attendent de nous aujourd'hui. Vous avez dit que vous êtes responsable de ce monde, de la lumière de ce monde. On vous a donné une terre pour ça. Vous êtes en train de revenir sur votre terre. Eh bien, donnez-nous cette lumière. On est en train de marcher dans le noir. Alors, qu'est-ce qu'on leur répond? On essaie de vous donner cette lumière, vous la refusez. Parce que vous avez l'impression qu'on veut vous faire du mal. Mais nous, on est là pour faire du bien. Donc, il y a un dialogue jusqu'à ce que les choses se mettent en place pour qu'elles comprennent, ces nations du monde, qu'on est là pour faire du bien. Elles ont du mal à recevoir d'Israël. Alors qu'Israël est là pour donner le bien.
Tant il y en a qui reconnaissent cette lumière.
Parce que ceux qui savent étudier, même dans leur façon d'étudier, sont arrivés à la conclusion que ça passe par Israël. Il n'est pas plus qu'elle, il doit lui donner, mais elle va où va se dévoiler le mari? Chez la femme. Mais c'est la même chose. Les nations du monde, elles révèlent Israël à la femme. Ou on donne mal, ou elles ne sont pas capables de recevoir, c'est des problèmes de couple. On a un problème de couple avec les nations du monde.
C'est qui la femme?
La femme, c'est les nations du monde, et le mari, dans cette relation, c'est Israël.
On dit que la femme a toujours
raison. Ça veut dire que la femme, ça veut dire que la femme doit, elle exige de recevoir. C'est d'accord. Israël doit jouer son rôle. Je ne suis pas en train de revenir sur ce que j'ai dit, tu as raison. Israël doit jouer son rôle. Pour qu'Israël joue son rôle, il faut d'abord qu'Israël accepte qu'il est celui qui doit apporter la lumière à la maison. Quand tu vas te marier, qu'est-ce que tu dois faire à la maison? Tu dois apporter la lumière à la maison, tu dois apporter de la Torah à la maison, tu dois apporter les valeurs divines à la maison. Ta femme, elle va te préparer des choses, elle va être dans la maison. La femme, c'est la maison. En bait et laïcha. Mais toi, tu dois apporter des choses de l'au-delà dans cette maison. Si dans le Shulchan Shabbat, tu es là juste pour manger, ça ne va pas. Si tu n'apportes pas une lumière supplémentaire qui vient de l'au-delà, comme Israël doit apporter aux nations du monde, eh bien, ta femme, elle te dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Donc il y a une relation intime entre Israël et les nations du monde. Et il y a un pont entre Israël et les nations du monde. Et il ne faut pas le négliger. Et Chas v'Shalom ne pas mal comprendre, comme si Israël n'avait pas besoin d'aucune nation, ils n'ont qu'à tous exploser, il n'y aura que des juifs. Okay, des bêtises, comme on entend assez souvent malheureusement. Okay. À la fin des temps, il n'y aura pas des juifs. Okay. Il y aura des nations du monde, elles vont rester des nations du monde, seulement elles vont reconnaître la lumière divine qui passe par le canal Israël. C'est tout. Quel?
Vous êtes d'accord que c'est en Israël que le peuple juif réussit lui à faire passer la...
C'est lui, Nachon.
Et enfin, c'est en Eretz
Israël. En Eretz Israël que ça se passe le mieux, Nachon.
Plus il y aurait de non-juifs en Israël, plus ce serait mieux ce serait pour réussir à faire passer la lumière.
Non, parce que les goïms n'ont pas besoin d'être ici. C'est Israël qui a besoin d'être ici pour être à l'endroit où le canal passe. Ça veut dire que les nations du monde doivent rester là où elles ont une terre qui correspond à leur nature. Elles n'ont pas besoin de venir ici. Mais elles vont venir, il y a des dates, tu as raison, des moments dans l'année où elles doivent venir. Et il est écrit dans les prophéties, quand est-ce qu'elles doivent venir en Eretz Israël? Minimum une fois par an, pendant la fête de Sukkot. Toutes les nations du monde devront être ici. D'accord? Mais le reste de l'année, Israël doit être ici. Et c'est de là qu'il va sortir. Qui mitzion tetzé Torah. Tetzé. C'est de Tzion que la Torah va sortir. Pour aller où? Chez les nations du monde. Udvar Hashem mi Yerushalayim. Mi Yerushalayim le Shara Olam. De puis Jérusalem pour le reste du monde.
Vous avez dit qu'il allait avoir toutes les nations.
Quelle?
Il ne peut pas y avoir une guerre.
Les guerres, ça ne va pas détruire tout le monde. Ceux qui doivent rester vont rester. Il y aura des nations du monde encore. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé des créatures pour les décimer et finir tout le monde et dire je me suis foutu de tout le monde. Après 6000 ans, je vous ai fait une grande guerre nucléaire, il n'y a plus personne dans ce monde. Ça veut dire que Dieu lui-même a raté sa création. D'accord ? C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Un juif réfléchit qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé ce monde, c'est pour le réussir. Et réussir la création, toi et moi, on doit être associés à Akadosh Baruch Hu pour qu'il réussisse sa création. C'est-à-dire apporter cette lumière aux nations du monde en étant ici. Okay.
Pourquoi Ishmael n'accepte pas qu'on soit sur cette terre ?
Okay, il y a un problème, tu as raison, il y a
si
des problèmes.
Cette lumière, pourquoi
Ishmael doit faire tes
chouva. Abraham, il a donné un peu
de... Et Abraham a reçu, a donné une partie aussi à Yitzhak. Yitzhak a donné aussi une partie à Esav et à Ishmael. Je veux dire, Ishmael a reçu de Abraham. Il y a tout un processus. Qui a enterré Abraham ? Yitzhak et Ishmael. Dans cet ordre-là. Il est marqué dans la Torah que c'est Yitzhak et Ishmael qui ont enterré Abraham. Qui est l'aîné? Alors pourquoi il n'y a pas marqué Ishmael et Yitzhak? Il a fait mort, il a fait tchouva. C'est ça la tchouva. Ça veut dire qu'Ishmael est là. Aujourd'hui, il nous embête. Mais comme Ishmael, son arrière-arrière-grand-père, a fait tchouva, Ishmael, aujourd'hui, le monde arabe va faire tchouva. Va reconnaître.
Hachem utilise Ishmael d'un côté aussi pour nous réveiller.
D'accord, tout à fait. Mais jusqu'au moment où on est bien réveillé, à ce moment-là, Ishmael reconnaît déjà le rôle d'Israël dans le monde. J'ai pas dit la suprématie. Okay. Le rôle d'Israël dans le monde. Okay.
C'est quoi la place d'Amalek dans tout ça?
Place d'Amalek, c'est une forme de révélateur. Ça veut dire qu'à chaque fois que je veux développer une photo, il vient pour être l'antithèse de cette photo-là et il me pousse à mieux faire pour révéler. C'est-à-dire à chaque fois, nous avons une force. Qu'est-ce que c'est Amalek? Nous disent les Chachamim en valeur numérique, c'est le doute. Donc à chaque fois que tu veux faire quelque chose dans ta vie, le doute va se réveiller en toi. Et qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Commencer à te battre contre ce doute-là pour révéler réellement la chose. Donc c'est toujours comme un révélateur, une force qui va te dire non pour voir combien tu dis oui. Imagine-toi, je te dis, sors de la classe et tu sors tout de suite. Ça prouve quoi? Que tu n'as pas envie d'étudier. Mais si je te dis sors de la classe et tu me dis non, pourquoi? J'ai envie de rester arabe, j'ai envie d'écouter le cours. Qu'est-ce que je me dis? Il a envie de rester.
Donc il y a Amalek.
Donc Amalek, c'est quoi? C'est quand je te dis sors de la classe, tu sors sans rien faire. Mais quand tu te bats contre Amalek, tu essaies de rester dans la classe. Tu me prouves que tu veux étudier.
Non, parce que quand il sort, il n'y a pas de doute.
Au contraire, il a complètement douté de son état ici. Il n'a rien à faire. Donc il est sorti. Alors qu'il doit prendre confiance que son état est ici.
S'il avait douté, il serait resté.
S'il avait douté, il m'aurait dit « Pourquoi ? Je veux rester. Pourquoi tu me fais sortir ? Mais si je sors, ça veut dire que je suis convaincu que j'ai rien à faire dans cette classe. » D'accord ?
Et à partir de la nation du monde,
Amalek, c'est encore une force qui est l'égale d'Israël dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est la plus haute des nations. Reshit Goïm Amalek. C'est la tête des nations. Comme il y a marqué Reshit Tvuato concernant Israël, chez eux aussi, il y a le mot Réchit. Ça veut dire on est deux Réchit. Hitler disait, c'est ou eux ou moi. Il ne peut pas y avoir deux. Tiens, il marche mauvais.
Amalek, c'est vraiment une nation, c'est plutôt...
Amalek, c'est une force et elle s'habille dans des nations. Aujourd'hui, on a du mal à reconnaître qui est réellement. Il y a eu une époque dans la Bible où on savait exactement reconnaître Amalek. Et notre rôle, c'est... Une fois qu'on a fini toutes les guerres ici, après encore une guerre contre ce doute-là, pour dévoiler le messianisme.
On sait,
malheureusement, on le sait ou pendant ou après. Mais on n'arrive pas à savoir avant. Et aujourd'hui, par exemple, tous ces Iraniens qui veulent faire sauter Israël, qui veulent nous balancer une bombe sur la tête, on sait que c'est une force amalekite. Même si eux-mêmes, ce n'est pas Amalek, il y a aussi une force amalekite. D'accord? Ok. Mais ça, on ne peut pas le faire seul. On doit le faire en tant que peuple qui revient sur sa terre. Parce que nous avons trois mitzvot quand on revient en terre d'Israël. L'une d'entre elles, c'est d'enlever le souvenir de Amalek. Ça veut dire que seulement en tant que nation, on peut le faire.
Je
peux pas sortir seul avec mon pistolet et tirer dans les rues. Mais si je suis envoyé par Tsahal, oui. D'accord ? Un soldat israélien, s'il n'est pas envoyé par l'armée, c'est un tueur. Mais s'il est envoyé par l'armée, c'est autre chose. Ok. C'est marqué. Veya, quel? Quand on veya qui vit acha, zahor et asher asal echa amalek bader v'etzef mitzrayim, ça c'est le premier verset. À la fin, il y a marqué veya qui vit acha Hashem el haaretz asher Hashem lecha notel lecha nachala lerishta timche et zecher amalek mitachat hashamayim lo tishkan. Ça veut dire que c'est seulement quand tu reviens sur ta terre, donc quand tu reviens sur ta terre, sous-entend tu deviens une nation, que tu peux sortir contre Amalek et construire le Beth Amidash d'ailleurs. Et la troisième chose, c'est quoi?
Nommer un roi.
Qui est la première en réalité. D'accord? Nommer un roi, construire le Beth Amidash et détruire le souvenir d'Amalek. Ça, c'est seulement en tant que nation. Donc, le roi, la même chose, le roi Mashiach.
C'est
l'ordre qu'il faut respecter. D'abord les manotes, la Melech. Ok? D'abord le roi. Ok? Alors on continue. Donc vous voyez qu'en réalité, quand on commence à nettoyer les lettres, tout se retrouve. Qu'est-ce que ça veut dire nettoyer les lettres? Je reviens à ce que nous avons dit au départ. Nettoyer les lettres, ça veut dire dépoussiérer. Notre Torah, elle est poussiéreuse. Et il faut la dépoussiérer. C'est ce qu'on essaye de faire au Machon Meir. Dépoussiérer la Torah. Dépoussiérer les lettres que vous connaissez déjà, que vous avez déjà étudiées depuis votre enfance et même avant, dans le ventre de maman. Maintenant, il faut la dépoussiérer. C'est-à-dire commencer à comprendre les choses réellement, comment elles se passent. Et pour ça, il faut prendre les lettres et commencer à secouer. Il ne faut pas avoir peur parce que tu te dis « Ouais, c'est pas ce qu'on m'a dit ». Il faut essayer de comprendre. Il faut poser des questions, comme vous le faites. Baruch HaShem. Et donc, lorsque la connaissance de Dieu dévoile sur terre, donc la prophétie, Al kol ha'am ha'yoshev ba, écoutez bien, sur tout le peuple qui se trouve en elle, qui s'installe en elle. Ça veut dire la prophétie va être en Eretz Israël, pas ailleurs. Ve kol ha'im mizdakechet umit'ala, et tout œil humain, okay, va monter et devenir pur, se purifier, et va voir des choses que l'œil ne pouvait pas voir avant. Gamma sheneela me'ine basar, même ce qui est caché à nos yeux aujourd'hui, on verra. Afhu nir'e ein be'ein. Cela aussi, nous verrons œil pour œil. Qu'est-ce que ça veut dire œil pour œil? Œil contre œil. Main. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Kook Zatzal expliquait, nous verrons avec nos yeux comme Dieu voit lui-même. Nous serons au même degré de vision. Alors notre œil sera à l'étage de l'œil divin. De l'œil divin. Ki ayin be'ayin iru beshuv Hashem Tzion. Et quelle est la première des choses qu'on doit voir pour voir si on est aveugle ou pas? Hein? Non. Non. C'est marqué, je viens de vous le lire. Il a fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Avec des mots simples? Non, avec des mots plus simples encore que la Shrina. Plus clairement. C'est, tout ce que vous dites, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Il a fait, mais le peuple qui revient. Beshuv Hashem Tzion, c'est quand Am Israël est en train de revenir de tous les exils dans lesquels il est. Autrement dit, quel est le test? Nous allons passer un test pour voir si nous voyons bien ou pas. Quel est le test à voir? Si tu vois ton peuple revenir et tu comprends que c'est un acte divin. Si tu es en train de voir des milliers de personnes en train de faire leur carte d'identité et d'ouvrir des comptes et de venir en Israël et de je ne sais pas quoi, et que tu comprends que c'est un processus du divin qui est en train de se réaliser là, c'est pas des gens qui un jour ils se sont levés, ils se sont dit tiens on monte, il se passe quelque chose. Ça veut dire que tu as déjà les yeux bien ouverts et tu es en train de voir comment Akadosh Baruch Hu est en train de progresser dans sa Géoula. D'accord? Donc le premier siman, c'est le retour d'Israël sur la terre.
Les juifs sont religieux et qui ne voient pas ça.
Il y a un problème. C'est ça le problème. D'ailleurs, moi quand je viens dans cette classe, ce qui m'émeut le plus, c'est pas que vous soyez en train d'étudier. c'est que vous soyez là, Bichlal. Que vous êtes venu de là où vous étiez. Je vous imagine très facilement dans les rues de Paris et dans les rues de là où vous étiez. Et je vous vois ici maintenant, et je sors, je pleure. Je vous jure, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis, comment Akadosh Baruch Hu les a sortis, comment ils ont fait pour être là? Et ils sont là. Comment Akadosh Baruch Hu, tu as réussi à les sortir de là-bas, ils auraient pu... C'est fini, c'était fini. Ils auraient pu rester là-bas encore, c'est fini encore une génération, Chas v'Shalom, savoir ce qu'ils seraient devenus. Ça m'émeut, réellement. Pourquoi? Parce que il faut arriver à cette vision-là, que la nation d'Israël revient sur sa terre. Il n'y a pas plus émouvant que ça. Quand vous voyez un avion entier de juifs qui montent de n'importe où dans le monde, et qui sont avec leurs petits drapeaux, c'est pas, vous croyez que c'est quelque chose de facile, de quelque chose de logique? Il n'y a rien de logique là-dedans. Le peuple d'Israël n'est pas logique. Vous savez que toute notre matriarche était stérile? Alors comment on est né? Pardon? Ça veut dire qu'on est hors nature. Et même quand elles sont... On leur enlève leur stérilité, elles ont 90 ans. Tu as déjà vu une maman accoucher à 90 ans, toi? Tout est pas normal. Pas normal aux normes de la Terre.
Pas naturel.
Ça veut dire qu'on est surnaturel. Ça aussi, ça dérange. On peut comprendre que ça dérange.
Il y en a qui n'arrivent pas, ils veulent venir.
Il y a aussi une sélection là-dedans entre ceux qui veulent pas vraiment et ceux qui veulent et qui n'y arrivent pas. Ceux qui veulent et qui n'y arrivent pas, Kadosh Baruch Hu, Bezat Hashem, les aide. Mais ceux qui ont une chita de ne pas vouloir, ça c'est très grave. Une chita de ne pas monter, c'est-à-dire, non, on veut pas monter. Ça c'est un problème, encore plus grave. Parce que c'est comme si on retardait la fin des temps, comme si on retardait la venue du Mashiach. Le Mashiach, son rôle, c'est pas de nous ramener. On doit venir avant. Le Mashiach, il amène juste ceux qui sont paumés, qui n'ont pas réussi avant. Mais Kabetz nidche amo Israël. Nidachim, c'est ceux qui restent. La petite poignée qui restait. Mais ceux qui doivent faire l'effort, c'est avant, tout seul.
Okay. Il y en a quand même énormément.
Énormément, c'est pas aussi énormément que ça, parce qu'il y a beaucoup d'assimilation, malheureusement. Tu as raison, il y a beaucoup de monde, mais même avec des noms juifs qui ne sont plus.
Ouais, il y a quand même entre les États-Unis, la France. Ouais,
il y a à peu près 6 millions.
Les gens sont assimilés non plus.
Hein?
Les gens sont assimilés non plus, alors les juifs.
Non, non, malheureusement, c'est fini, c'est plus des juifs assimilés. Si eux, ils sont assimilés, ils comptent. Mais une fois qu'ils sont assimilés, qu'un homme juif s'est marié avec une Goya, lui, je peux le sauver, mais ses enfants sont Goy. Donc il y a un problème. Il faut bien comprendre que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe au niveau de la nation. Le peuple d'Israël a toujours continué son histoire avec ceux qui sont sortis. Il y a des gens qui ne sont pas sortis d'Égypte. Okay? 4/5 ne sont pas sortis. Alors ils sont où? La Torah n'en parle plus, jamais. Alors ils sont sortis de l'histoire. L'histoire s'est faite avec ceux qui sont sortis, c'est tout. Vous faites partie des hommes qui sont sortis, des Juifs, des Égyptiens. 1/5. Les autres, on n'en parle plus. Pourtant, c'est des millions.
Pourquoi ils sont restés?
Mais justement, pour les mêmes raisons. On est bien ici, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? On ne sait même pas où on va, c'est un désert. D'abord, il faut traverser un désert avec un allumé qui s'appelle Moshe. Ah ouais? Mais ouais. Et puis, quand tu fais 3 ou 4 tours, déjà 4 jours dans le désert, tu te dis, punaise, ils avaient raison, les autres, de rester. Il vaut mieux qu'on reste, nous aussi. Et alors, tout le monde doit mourir dans ce désert, parce qu'ils n'ont pas envie du tout de rentrer réellement. C'est pas évident d'arriver ici. Pas évident. C'est pour ça que je suis ému quand je vous vois et je souhaite et je prie pour que vous restiez. Parce que d'être, c'est une chose. Mais de finir votre étude et vos études et de rester encore ici, c'est encore une autre paire de manches. C'est bien? Eh bien, c'est tout. Hein. Je crois qu'on est arrivé. Toda Rabba.